Chapitre 6. Anon. J'aurais dû l'enlever, disait-il le soir à Spendius. Il fallait la saisir, l'arracher de sa maison. Personne n'eût osé rien contre moi. Spendius ne l'écoutait pas. Étendu sur le dos, il se reposait avec délices près d'une grande jarre pleine d'eau miellée, où de temps à autre il se plongeait la tête pour boire plus abondamment. Mâtho reprit. « Que faire? Comment rentrer dans Carthage ?»«
Je ne sais, » lui dit Spendius. Cette impassibilité l'exaspérait. Il s'écria.
« Hé, la faute vient de toi. Tu m'entraînes puis tu m'abandonnes, lâche que tu es. Pourquoi donc t'obéirais-je? Te crois-tu mon maître? Ah, prostitueur, esclave, fils d'esclave !»
Il grinçait des dents et levait sur Spendius sa large main. Le grec ne répondait pas. Un lampadaire d'argile brûlait doucement contre le mât de la tente où le zaïn frayonnait dans la panoplie suspendue. Tout à coup, Mâtho chaussa ses cothurnes, boucla sa jaquette à lame d'airain, prit son casque.
« Où vas-tu ? » demanda Spendius. « J'y retourne. Laisse-moi. Je la ramènerai. Et s'ils se présentent, je les écrase comme des vipères. Je la ferai mourir, Spendius !» il répéta.
« Oui, je la tuerai. Tu verras, je la tuerai. »
Mais Spendius, qui tendait l'oreille, arracha brusquement le zaïnphe et le jeta dans un coin, en accumulant par-dessus des toisons. On entendit un murmure de voix, des torches brillèrent, et Nar Havas entra, suivi d'une vingtaine d'hommes environ. Ils portaient des manteaux de laine blanche, de longs poignards, des colliers de cuir, des pendants d'oreilles en bois, des chaussures en peau d'hyène, et, restés sur le seuil, ils s'appuyaient contre leurs lances comme des pasteurs qui se reposent. Nar Havas était le plus beau de tous. Des courroies garnies de perles serraient ses bras minces. Le cercle d'or, attachant autour de sa tête son large vêtement, retenait une plume d'autruche qui lui pendait par derrière l'épaule. Un continuel sourire découvrait ses dents, ses yeux semblaient aiguisés comme des flèches, et il y avait dans toute sa personne quelque chose d'attentif et de léger. Il déclara qu'il venait se joindre aux mercenaires, car la République menaçait depuis longtemps son royaume, donc il avait intérêt à secourir les barbares, et il pouvait aussi leur être utile. Je vous fournirai des éléphants, mes forêts en sont pleines, du vin, de l'huile, de l'orge, des dattes, de la poix et du soufre pour les sièges, 20 000 fantassins et 10 000 chevaux. Si je m'adresse à toi, Mâtho, c'est que la possession du zaïnphe t'a rendu le premier de l'armée. Il ajouta. Nous sommes d'anciens amis, d'ailleurs. Mâtho, cependant, considérait Spendius, qui écoutait assis sur les peaux de mouton, tout en faisant avec la tête de petits signes d'assentiment. Nar Havas parlait. Il attestait les dieux. Il maudissait Carthage. Dans ses imprécations, il brisa un javelot. Tous ces hommes à la fois poussèrent un grand hurlement, et Mâtho, emporté par cette colère, s'écria qu'il acceptait l'alliance. Alors on amena un taureau blanc avec une brebis noire, symbole du jour et symbole de la nuit. On les égorgea au bord d'une fosse. Quand elle fut pleine de sang, ils y plongèrent leurs bras. Puis Nar Havas étala sa main sur la poitrine de Mâtho et Mâtho la sienne sur la poitrine de Nar Havas. Ils répétèrent ce stigmate sur la toile de leur tente. Ensuite, ils passèrent la nuit à manger et on brûla le reste des viandes avec la peau, les ossements, les cornes et les ongles. Une immense acclamation avait salué Mâtho lorsqu'il était revenu portant le voile de la déesse. Ceux même qui n'étaient pas de la religion cananéenne sentirent à leur vague enthousiasme qu'un génie survenait. Quant à chercher à s'emparer du zaïnphe, aucun n'y songea. La manière mystérieuse dont il l'avait acquis suffisait, dans l'esprit des barbares, à en légitimer la possession. Ainsi pensaient les soldats de race africaine. Les autres, dont la haine était moins vieille, ne savaient que résoudre. S'ils avaient eu des navires, ils se seraient immédiatement en allés. Spendius, Nar Havas et Mâtho expédièrent des hommes à toutes les tribus du territoire punique. Carthage exténuait ses peuples. Elle en tirait des impôts exorbitants, et les fers, la hache ou la croix punissaient les retards et jusqu'aux murmures. Il fallait cultiver ce qui convenait à la République, fournir ce qu'elle demandait. Personne n'avait le droit de posséder une arme. Quand les villages se révoltaient,
On vendait les habitants. Les gouverneurs étaient estimés comme des pressoirs d'après la quantité qu'ils faisaient rendre. Puis, au-delà des régions directement soumises à Carthage, s'étendaient les alliés ne payant qu'un médiocre tribut. Derrière les alliés, vagabondaient les nomades, qu'on pouvait lâcher sur eux. Par ce système, les récoltes étaient toujours abondantes, les haras savamment conduits, les plantations superbes. Le vieux Caton, un maître en fait de labour et d'esclaves, 92 ans plus tard, en fut ébahi, et le cri de mort qu'il répétait dans Rome n'était que l'exclamation d'une jalousie cupide. Durant la dernière guerre, les exactions avaient redoublé, si bien que les villes de Libye, presque toutes, s'étaient livrées à Régulus. Pour les punir, on avait exigé d'elles 1 000 talents, 20 000 bœufs, 300 sacs de poudre d'or, des avances de grains considérables, et les chefs des tribus avaient été mis en croix ou jetés au lion. Tunis surtout, exécrait Carthage. Plus vieille que la métropole, elle ne lui pardonnait point sa grandeur. Elle se tenait en face de ses murs, accroupie dans la fange, au bord de l'eau, comme une bête venimeuse qui la regardait. Les déportations, les massacres et les épidémies ne l'affaiblissaient pas. Elle avait soutenu Arcagate, fils d'Agathoclès. Les mangeurs de choses immondes, tout de suite, y trouvèrent des armes. Les courriers n'étaient pas encore partis que dans les provinces une joie universelle éclata. Sans rien attendre, on étrangla dans les bains les intendants des maisons et les fonctionnaires de la République. On retira des cavernes les vieilles armes que l'on cachait. Avec le fer des charrues, on forgea des épées. Les enfants sur les portes aiguisaient des javelots, et les femmes donnèrent leurs colliers, leurs bagues, leurs pendants d'oreilles, tout ce qui pouvait servir à la destruction de Carthage. Chacun y voulait contribuer. Les paquets de lances s'amoncelaient dans les bourgs comme des gerbes de maïs. On expédia des bestiaux et de l'argent. Mato paya vite aux mercenaires l'arrérage de leurs soldes, et cette idée de Spendius le fit nommer général en chef, Scalicim des barbares. En même temps, les secours d'hommes affluaient. D'abord parurent les gens de race autochtone, puis les esclaves des campagnes. Des caravanes de nègres furent saisies, on les arma, et des marchands qui venaient à Carthage, dans l'espoir d'un profit plus certain, se mêlèrent aux barbares. Il arrivait incessamment des bandes nombreuses. Des hauteurs de l'acropole, on voyait l'armée qui grossissait. Sur la plateforme de l'aqueduc, les gardes de la Légion étaient postés en sentinelle, et, près d'eux, de distance en distance, s'élevaient des cuves en airain où bouillonnaient des flots d'asphalte. En bas, dans la plaine, la grande foule s'agitait tumultueusement. Ils étaient incertains, éprouvant cet embarras que la rencontre des murailles inspire toujours aux barbares. Utique et Hipposarite refusèrent leur alliance. Colonies phéniciennes, comme Carthage, elles se gouvernaient elles-mêmes et, dans les traités que concluait la République, faisaient chaque fois admettre des clauses pour les en distinguer. Cependant, elles respectaient cette sœur plus forte qui les protégeait, et elles ne croyaient point qu'un amas de barbares fût capable de la vaincre. Ils seraient au contraire exterminés. Elles désiraient rester neutres et vivre tranquilles. Mais leur position les rendait indispensables. Utique, au fond d'un golfe, était commode pour amener dans Carthage les secours du dehors. Si Utique seule était prise, Hipposarite, à 6 heures plus loin sur la côte, la remplacerait, et la métropole ainsi ravitaillée se trouverait inexpugnable. Spendius voulait qu'on entreprît le siège immédiatement. Narravas s'y opposa. Il fallait d'abord se porter sur la frontière. C'était l'opinion des vétérans, celle de Mato lui-même, et il fut décidé que Spendius irait attaquer Utique, Mato Hipposarite. Le 3e corps d'armée, s'appuyant à Tunis, occuperait la plaine de Carthage. Autharite s'en chargea. Quant à Narravas, il devait retourner dans son royaume pour y prendre des éléphants et, avec sa cavalerie, battre les routes. Les femmes crièrent bien fort à cette décision. Elles convoitaient les bijoux des dames puniques. Les Libyens aussi réclamèrent. On les avait appelés contre Carthage et voilà qu'on s'en allait. Les soldats presque seuls partirent. Mato commandait ses compagnons avec les Ibériens, les Lusitaniens, les hommes de l'Occident et des îles, et tous ceux qui parlaient grec avaient demandé Spendius à cause de son esprit. La stupéfaction fut grande quand on vit l'armée se mouvoir tout à coup. Puis elle s'allongea, sous la montagne de l'Ariane, par le chemin d'Utique, du côté de la mer. Un tronçon demeura devant Tunis, le reste disparut, et il reparut sur l'autre bord du golfe, à la lisière des bois, où il s'enfonça. Ils étaient 80 000 hommes, peut-être. Les deux cités tyriennes ne résisteraient pas. Ils reviendraient sur Carthage. Déjà une armée considérable l'entamait, en occupant l'isthme par la base, et bientôt elle périrait affamée, car on ne pouvait vivre sans l'auxiliaire des provinces, les citoyens ne payant pas, comme à Rome, de contributions. Le génie politique manquait à Carthage. Son éternel souci du pain l'empêchait d'avoir cette prudence que donnent les ambitions plus hautes. Galère ancrée sur le sable libyque, elle s'y maintenait à force de travail. Les nations, comme des flots, mugissaient autour d'elle, et la moindre tempête ébranlait cette formidable machine. Le trésor se trouvait épuisé par la guerre romaine et par tout ce qu'on avait gaspillé, perdu, tandis qu'on marchandait les barbares. Cependant, il fallait des soldats, et pas un gouvernement ne se fiait à la République. Ptolémée, naguère, lui avait refusé 2000 talents. D'ailleurs, le rapt du voile les décourageait. Spendius l'avait bien prévu. Mais ce peuple, qui se sentait haï, étreignait sur son cœur son argent et ses dieux, et son patriotisme était entretenu par la constitution même de son gouvernement. D'abord, le pouvoir dépendait de tous, sans qu'aucun fût assez fort pour l'accaparer. Les dettes particulières étaient considérées comme dettes publiques. Les hommes de race cananéenne avaient le monopole du commerce. En multipliant les bénéfices de la piraterie par ceux de l'usure, en exploitant rudement les terres, les esclaves et les pauvres, quelquefois on arrivait à la richesse. Elle ouvrait seule toutes les magistratures, et bien que la puissance et l'argent se perpétuassent dans les mêmes familles, on tolérait l'oligarchie parce qu'on avait l'espoir d'y atteindre. Les sociétés de commerçants, où l'on élaborait les lois, choisissaient les inspecteurs des finances, qui, au sortir de leur charge, nommaient les 100 membres du Conseil des Anciens, dépendant eux-mêmes de la Grande Assemblée, réunion générale de tous les riches. Quant aux deux suffètes, à ces restes de rois, moindres que des consuls, ils étaient pris le même jour dans deux familles distinctes. On les divisait par toutes sortes de haines pour qu'ils s'affaiblissent réciproquement. Ils ne pouvaient délibérer sur la guerre, et, quand ils étaient vaincus, le Grand Conseil les crucifiait. Donc, la force de Carthage émanait des Sisites, c'est-à-dire d'une grande cour au centre de Malca, à l'endroit, disait-on, où avait abordé la première barque de matelots phéniciens, la mer depuis lors s'étant beaucoup retirée. C'était un assemblage de petites chambres, d'une architecture archaïque, en tronc de palmier, avec des encoignures de pierre, et séparées les unes des autres pour recevoir isolément les différentes compagnies. Les riches se tassaient là, tout le jour, pour débattre leurs intérêts et ceux du gouvernement, depuis la recherche du poivre jusqu'à l'extermination de Rome. Trois fois par lune, ils faisaient monter leur lit sur la haute terrasse bordant le mur de la cour, et d'en bas, on les apercevait attablés dans les airs, sans cothurnes et sans manteaux, avec les diamants de leurs doigts qui se promenaient sur les viandes, et leurs grandes boucles d'oreilles qui se penchaient entre les buires, tous forts et gras, à moitié nus, heureux, riant et mangeant en plein azur, comme de gros requins qui s'ébattent dans la mer. Mais à présent, ils ne pouvaient dissimuler leurs inquiétudes. Ils étaient trop pâles. La foule qui les attendait aux portes les escortait jusqu'à leur palais pour en tirer quelques nouvelles. Comme par les temps de peste, toutes les maisons étaient fermées. Les rues s'emplissaient, se vidaient soudain. On montait à l'acropole, on courait vers le port. Chaque nuit, le Grand Conseil délibérait. Enfin, le peuple fut convoqué sur la place de Camon, et l'on décida de s'en remettre à Hannon, le vainqueur des Catompiles. C'était un homme dévot, rusé, impitoyable aux gens d'Afrique, un vrai Carthaginois. Ses revenus égalaient ceux des Barca. Personne n'avait une telle expérience dans les choses de l'administration. Il décréta l'enrôlement de tous les citoyens valides. Il plaça des catapultes sur les tours, il exigea des provisions d'armes exorbitantes, il ordonna même la construction de 14 galères dont on n'avait pas besoin, et il voulut que tout fût enregistré, soigneusement écrit. Il se faisait transporter à l'arsenal, au phare, dans le trésor des temples, on apercevait toujours sa grande litière qui, en se balançant de gradin en gradin, montait les escaliers de l'acropole. Dans son palais, la nuit, comme il ne pouvait dormir, pour se préparer à la bataille, il hurlait d'une voix terrible des manœuvres de guerre. Tout le monde, par excès de terreur, devenait brave. Les riches, dès le chant des coqs, s'alignaient le long des mappales, et, retroussant leurs robes, ils s'exerçaient à manier la pique. mais faute d'instructeur, on se disputait. Ils s'asseyaient essoufflés sur les tombes, puis recommençaient. Plusieurs même s'imposèrent un régime. Les uns, s'imaginant qu'il fallait beaucoup manger pour acquérir des forces, se gorgeaient, et d'autres, incommodés par leur corpulence, s'exténuaient de jeûne pour se faire maigrir. Utique avait déjà réclamé plusieurs fois les secours de Carthage. Mais Hannon ne voulait point partir tant que le dernier écrou manquait aux machines de guerre. Il perdit encore 3 lunes à équiper les 112 éléphants qui logeaient dans les remparts. C'étaient les vainqueurs de Régulus. Le peuple les chérissait. On ne pouvait trop bien agir envers ses vieux amis. Hannon fit refondre les plaques d'airain dont on garnissait leur poitrail, dorer leurs défenses, élargir leurs tours et tailler dans la pourpre la plus belle des caparaçons brodés de franges très lourdes. Enfin, comme on appelait leur conducteur des Indiens, d'après les premiers sans doute venus des Indes, il ordonna que tous fussent costumés à la mode indienne, c'est-à-dire avec un bourrelet blanc autour des tempes et un petit caleçon de byssus qui formait, par ses plis transversaux, comme les 2 valves d'une coquille appliquées sur les hanches. L'armée d'Autharite restait toujours devant Tunis. Elle se cachait derrière un mur fait avec la boue du lac et défendue au sommet par des broussailles épineuses. Des nègres y avaient planté çà et là, sur de grands bâtons, d'effroyables figures, masques humains composés avec des plumes d'oiseaux, têtes de chacal ou de serpent, qui bâillaient vers l'ennemi pour l'épouvanter. Et par ce moyen, s'estimant invincibles, les barbares dansaient, luttaient, jonglaient, convaincus que Carthage ne tarderait pas à périr. Un autre canon eût écrasé facilement cette multitude qu'embarrassaient des troupeaux et des femmes. D'ailleurs, il ne comprenait aucune manœuvre et Autharite, découragé, n'en exigeait plus rien. Il s'écartait quand il passait en roulant ses gros yeux bleus. Puis, arrivé au bord du lac, il retirait son saillon en poil de phoque, dénouait la corde qui attachait ses longs cheveux rouges et les trempait dans l'eau. Il regrettait de n'avoir pas déserté chez les Romains avec les 2000 Gaulois du temple d'Eryx. Souvent, au milieu du jour, le soleil perdait ses rayons tout à coup. Alors le golfe et la pleine mer semblaient immobiles, comme du plomb fondu. Un nuage de poussière brune, perpendiculairement étalé, accourait en tourbillonnant, les palmiers se courbaient, le ciel disparaissait, on entendait rebondir des pierres sur la croupe des animaux, et le Gaulois, les lèvres collées contre les trous de sa tente, râlait d'épuisement et de mélancolie. Il songeait à la senteur des pâturages par les matins d'automne, à des flocons de neige, au beuglement des aurochs perdus dans le brouillard, et, fermant ses paupières, il croyait apercevoir les feux des longues cabanes, couvertes de paille, trembler sur les marais au fond des bois. D'autres que lui regrettaient la patrie, bien qu'elle ne fût pas aussi lointaine. En effet, les Carthaginois captifs pouvaient distinguer au-delà du golfe, sur les pentes de Byrsa, les vélariums de leur maison, étendus dans les cours. Mais des sentinelles marchaient autour d'eux perpétuellement. On les avait tous attachés à une chaîne commune. Chacun portait un carcan de fer et la foule ne se fatiguait pas de venir les regarder. Les femmes montraient aux petits-enfants leurs belles robes en lambeaux qui pendaient sur leurs membres amaigris. Toutes les fois qu'Autharite considérait Giscon, une fureur le prenait au souvenir de son injure. Il l'eût tué sans le serment qu'il avait fait à Narravas. Alors il rentrait dans sa tente, buvait un mélange d'orge et de cumin jusqu'à s'évanouir d'ivresse, puis se réveillait au grand soleil, dévoré par une soif horrible. Mato, cependant, assiégeait Hipposarite. Mais la ville était protégée par un lac communiquant avec la mer. Elle avait 3 enceintes, et sur les hauteurs qui la dominaient se développait un mur fortifié de tours. Jamais il n'avait commandé de pareilles entreprises. Puis la pensée de Salammbô l'obsédait, et il rêvait dans les plaisirs de sa beauté comme les délices d'une vengeance qui le transportait d'orgueil. C'était un besoin de la revoir, âcre, furieux, permanent. Il songea même à s'offrir comme parlementaire, espérant qu'une fois dans Carthage, il parviendrait jusqu'à elle. Souvent, il faisait sonner l'assaut, et sans rien attendre, s'élançait sur le môle qu'on tâchait d'établir dans la mer. Il arrachait les pierres avec ses mains, bouleversait, frappait, enfonçait partout son épée. Les barbares se précipitaient pêle-mêle, les échelles rompaient avec un grand fracas, et des masses d'hommes s'écroulaient dans l'eau qui rejaillissait en flots rouges contre les murs. Enfin, le tumulte s'affaiblissait, et les soldats s'éloignaient pour recommencer.